Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à la radio Jonankan de Koulikoro. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition qui vous sera présentée par Imran Akilo Maïga, dont voici les titres. Le divorce entre le Mali et la CEDEAO se précise alors qu'il doit être officiellement prononcé le 29 janvier. L'organisation ouest-africaine invite le pays à une réunion pour discuter des modalités de séparation. Le chef du gouvernement est en visite au Ghana depuis hier. Abdoulaye Meïga est porteur de message du président de la transition au nouveau président élu du Ghana. Dans cette édition, nous vous amenons à la découverte des buffets dans les restaurants. Avec ce système, les restaurateurs proposent plusieurs variétés de plats sur commande des clients. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilo Meïga, la mise en nom de Philly Dambélé. Le Mali dira officiellement adieu à la CEDEAO à partir du 29 janvier prochain. Dans une correspondance en date du 13 janvier adressée au ministère des Affaires étrangères du Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a acté ce retrait. Mais pour matérialiser cela, des discussions techniques sont prévues pour organiser les modalités de cette séparation selon l'organisation sous-régionale Khalifa Goïta.
Dans sa correspondance, la CEDEAO dit prendre acte officiellement de la décision malienne de se retirer du regroupement le 29 janvier prochain, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de l'Organisation ouest-africaine. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, précise que c'était à la faveur de la 66e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue le 15 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria. La commission de la CEDEAO ajoute qu'elle engagera dès cette date les formalités nécessaires pour acter la séparation du Mali de l'organisation. Le document prévoit la tenue d'une réunion entre les équipes techniques des deux parties afin de discuter des modalités du retrait. La note rappelle que la date de cette rencontre pourra être convenue ultérieurement après consultation. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avaient annoncé leur volonté de quitter la CEDEAO. Ces pays avaient aussi fait savoir que leur décision de quitter l'organisation était irréversible. En outre, l'AES a rejeté le délai de rétractation de 6 mois accordé par la CEDEAO avant leur retrait définitif. Le collège des chefs d'État de l'AES avait considéré ce moratoire comme une tentative de déstabilisation extérieure.
Pour des observateurs, cette réunion s'annonce capitale pour le Mali et les autres pays membres de l'AES pour leur avenir. Ils expliquent que plusieurs aspects pourraient être discutés. Dr Hassan Ben Bamba, enseignant-chercheur et spécialiste de relations internationales, est joint par Khalifa Goïta.
C'est d'abord les modalités administratives et logistiques du retrait. Cela pourrait inclure, n'est-ce pas, la gestion des formalités administratives, le retrait des représentants surtout du Mali dans les institutions de la CEDEAO et la clôture, n'est-ce pas, des différents accords et projets en cours entre le Mali et l'organisation. Il pourrait être nécessaire de discuter des conséquences économiques du retrait du Mali, notamment concernant les échanges commerciaux, les droits et obligations des parties, la question sécuritaire, la sécurité régionale, de gouvernance et de stabilité régionale. Le retrait pourrait affecter certaines initiatives sociales ou humanitaires gérées par la CEDEAO, notamment en matière de soutien aux réfugiés et d'aide au développement et ou d'éducation. Les États de l'AES pourraient insister sur plusieurs priorités lors des discussions. La CEDEAO pourrait facilement parler du respect des principes, de vouloir faire changer d'avis. Donc l'organisation pourrait insister sur des principes fondateurs, notamment en matière de démocratie.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Direction Ghana, où le premier ministre général de division Abdoulaye Meïga séjourne depuis hier à Accra au Ghana pour une visite de 48 heures. Le chef du gouvernement est porteur d'un message du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, à son homologue John Dramani Mahama, nouvellement investi. Au programme, le premier ministre devrait être reçu en audience ce jeudi au palais présidentiel par le chef de l'État ghanaien. Il aura ensuite une rencontre avec la communauté malienne sur place. Partons à Gao, des hommes armés ont pris pour cible le poste de contrôle des forces armées maliennes de Wabaria dans la commune de Gounzouré. C'était ce mercredi 15 janvier 2025, aux environs de 16 heures. Des sources locales, les FAMAN ont réussi à neutraliser plusieurs assaillants tout en récupérant du matériel de guerre et des engins roulants utilisés par les assaillants. La situation est sous contrôle et la population a commencé à vaquer à ses occupations. Les responsables du parti Congrès national d'initiative démocratique Sini de Faso Yiruaton ont présenté leurs vœux de nouvel an au peuple malien le mercredi 15 janvier 2025. Au cours de ce point de presse, le président du parti Sini de Faso Yiruaton, Maître Mouta Gatal, a abordé plusieurs sujets, notamment l'organisation des élections, le retrait du Mali de la CEDEAO, la charte des vies, la crise énergétique, l'insécurité, entre autres. Le point avec Sita Sidibé.
S'agissant de la crise énergétique, Maître Mouta Gatal a déclaré qu'elle est devenue une préoccupation majeure pour les Maliens à l'approche du mois de Ramadan et la saison chaude. Selon lui, le manque d'électricité a négativement impacté sur les activités économiques des populations, voire même le fonctionnement des services publics et privés. Le président du CENID a mis l'accent sur la vie chère. Il a souligné que malgré les subventions et autres formes de soutien aux plus vulnérables, le quotidien est difficile d'être atteint. Parlant de la situation sécuritaire, Maître Mouta Gatal a indiqué qu'il est impératif d'adopter une approche intégrée pour lutter contre l'insécurité en allant au-delà de la dimension militaire. Il dit avoir reconnu l'effort des forces de défense et de sécurité sur les théâtres d'opération. Mais selon lui, il faut aussi dialoguer avec certaines parties prenantes en vue de leur reddition. Sur le plan politique, Maître Muntaka a salué la libération des leaders politiques précédemment arrêtés. Il a aussi sollicité la libération des autres détenus politiques pour un meilleur apaisement du climat social.
Sur toute autre information, le menu à la carte préparé sur commande du client, ceci est la version classique des restaurants que beaucoup d'entre nous connaissons. Ce dernier temps, un nouveau système de restauration a fait son entrée à Bamako. Il s'agit du buffet. Avec ce système, les restaurateurs proposent plusieurs variétés de plats, incluant les entrées, les plats de résistance et les desserts à une somme forfaitaire par personne, servis sur place à volonté. Pour les amoureux du buffet, ce dernier comporte plusieurs avantages. Lala Diahara Touré nous fait découvrir dans ce reportage l'univers des buffets suivants.
Il est presque 14h lorsque nous arrivons dans ce restaurant de la place. Ici, la première chose qui tape à l'œil est la diversité des plats déjà préparés et prêts à être servis. Des plats soigneusement disposés sur un buffet. Ceci est la nouvelle forme de restauration assez répandue ces temps-ci dans la ville aux Trois Caïmans. Rapidité, convivialité autour du repas et coûts assez raisonnables sont entre autres raisons qui motivent les adeptes du système.
C'est un restaurant de luxe et qui offre quand même un cadre idéal.
Moi, la plupart du temps, c'est pour faire plaisir à mes amis.
Nous avons beaucoup de collègues internationaux qui sont ici. Donc, l'occasion de leur départ ou de leur célébration d'anniversaire nous amène souvent à nous retrouver autour des buffets. Ça offre une gamme variée de nourriture au moindre coût.
Si dans un passé récent, l'idée de repenser la restauration sous cette forme était inimaginable, aujourd'hui, cette nouvelle façon de faire révolutionne le domaine et rencontre un franc succès à en croire Mme Fatoumata Bari, gérante de buffet.
Parce qu'ils préfèrent avoir plus de choix qu'un menu limité. Et c'est la qualité des repas. Ils ont des produits locaux et de qualité. Parce que c'est tout dans un cadre aussi chaleureux, familial et moderne.
Au buffet, pour une somme forfaitaire, le client peut se servir à volonté. Mais attention, on n'emporte rien avec soi.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a lancé depuis 2012 des initiatives pour relancer les activités touristiques au Mali. Ces initiatives, dont entre autres Bamako City Tour, Kay City Tour et Ségou City Tour, ont eu un impact positif sur la redynamisation du secteur du tourisme, selon l'Agence pour la promotion du tourisme au Mali. Les responsables du département ont indiqué que des dispositions ont été prises pour élargir ces activités aux régions touristiques, notamment Tombouctou, Mopti, Banjagara et Djenne Intala Akbilal.
Bamako City Tour, Kay City Tour ou Ségou City Tour sont des initiatives lancées par les autorités en charge du tourisme pour promouvoir le tourisme local. Et le résultat est satisfaisant selon Sidi Keïta, directeur général de l'Agence pour la promotion du tourisme.
Juste après la tenue des éditions Bamako City Tour, Kay City Tour, Ségou City Tour, nous avons constaté une augmentation du nombre de visiteurs au niveau d'un certain nombre de sites touristiques.
Ces initiatives ne vont pas s'arrêter en si bon chemin car elles seront élargies à d'autres régions afin de de revitaliser les sites touristiques, explique le directeur de l'Agence pour la promotion du tourisme.
Il s'agit de la revitalisation des sites touristiques. Aujourd'hui, nous avons Mopti, Tombouctou, Djéné. L'objectif est que nous allons pouvoir griffer à l'offre culturelle des offres de loisirs. Et tous les anciens bastions du tourisme seront ciblés dans le cadre des campagnes de promotion touristique courant 2025.
L'année 2025 sera à Mopti une année culturelle. Et les autorités veulent mettre à profit les événements culturels prévus dans la région pour promouvoir le tourisme. Boubacar Kassambara, directeur régional adjoint du tourisme.
Il y a quelques festivals qui seront organisés à Mopti. Il y a d'autres activités qui sont prévues qui vont faire revivre le secteur et renaître vraiment l'activité touristique en 5e région. C'est ça, découvrir nos sites touristiques et nos valeurs ancestrales.
Ces initiatives de relance du secteur touristique sont bonnes, mais elles doivent être inclusives en y associant tous les acteurs du secteur, soutient Hamidou Fofana, président de la coordination des professionnels du tourisme de la région de Mopti.
Aujourd'hui, les SAM sont à X, mais s'il y a un tourisme local, on peut s'asseoir et dégager un consensus entre nous. On peut faire une grande diminution de 30, voire 40, même voire 50%. Mais malheureusement, on est toujours laissé à nous-mêmes.
Et au pays d'Ogon, une autre destination touristique prisée, cette relance des activités touristiques est moins perceptible, selon Ankunja du Papa Napo, président des guides touristiques de Banyagara.
Pour les relances du tourisme, jusqu'à nos jours, on n'a pas eu l'impact pour pouvoir venir visiter les pays d'Ogon. Il faut quand même organiser des festivals locaux qui sont vraiment nécessaires pour faire les relances du tourisme à partir de Banyangara.
Le président de la transition a décrété 2025 année de la culture. Une annonce qui a suscité de l'espoir chez les acteurs du tourisme pour une redynamisation du secteur en hibernation depuis plus d'une décennie.
C'est tout pour cette édition du soir, mais avant de fermer complètement cette édition, nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Mariam, de quel sujet parle-t-on ce soir ?
Journée nationale de la souveraineté retrouvée, focus sur les volets politiques, sécurité et développement. Imran Akilou Maïga, c'est le thème de notre émission Le Grand Dialogue de ce soir. Et pour en parler, nous avons trois invités, Boulan Barreau du parti SNID, Lamine Diallo du parti CODEM, Cheikh Mouar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance.
Merci Mariam Maïga et bon débat. Dans quelques instants, vous aurez Mariam Maïga, mais avant le magazine dans peu de temps. Merci de l'avoir suivi. Si dans le code de travail, les fonctionnaires et autres travailleurs ont droit à des jours de repos, il n'en est pas à moins pour les élèves et étudiants. Ainsi, au moins un jour sur sept est consacré à leur récupération. Cependant, que font les enfants pendant les week-ends? Quelle est la meilleure façon d'occuper un enfant pendant son temps libre scolaire? Des éléments de réponse dans ce magazine dédié aux enfants, une réalisation de Mamadou Samasekou.
Les samedis et dimanches, je m'exerce en maths et physique avec ma sœur.
Je m'exerce en maths, physique, chimie et bio. Les samedis et dimanches, j'aide ma maman dans les tâches ménagères. C'est seulement après les travaux à domicile que je fais mes révisions.
C'est ainsi que ces écoliers de Mopti, Kadjolo et Bamako occupent leur week-end. Cependant, des pédagogues estiment que le temps libre de chaque enfant doit être géré selon sa nature. Mourike Dambélé, enseignant-chercheur pédagogue à l'université Yambo-Wologem de Bamako.
Il y a des façons de faire, mais il y a souvent la nécessité de contrôler ces façons de faire parce que les enfants ils ne sont pas les mêmes. Donc c'est en fonction de la nature de l'enfant, de sa situation scolaire, qu'on choisit les modalités pratiques d'occupation du temps vacant sur le plan scolaire.
Des parents d'élèves à Bamako et à l'intérieur du pays expliquent comment ils occupent leurs enfants pendant les week-ends. Si certains priorisent l'apprentissage scolaire, d'autres ont porté leur choix sur les tâches ménagères ou la distraction.
2 heures ou 3 heures de temps de cours à domicile. Les petits soirs, ils partent à l'école coranique. Ils ont aussi un temps de jeu entre frères.
J'envoie mes enfants à l'école coranique. De retour, si c'est une fillette, elle s'assoit à côté de moi pour qu'elle ait une idée de tâche ménagère. Si c'est un petit garçon, je l'envoie dans les ateliers pour les métiers.
Après avoir nettoyé leurs effets scolaires, les enfants viennent m'aider à la cuisine. Le reste de la journée, ils regardent la télé.
Après les travaux, c'est la télé.
5.
Les spécialistes de l'enseignement félicitent et encouragent les parents qui s'impliquent à leur manière dans l'occupation de leurs enfants à la maison. Ils ajoutent que toutes ces façons ont des avantages et des limites. Mourike Dambélé, enseignant-chercheur, pédagogue à l'université Yambo Wulugem de Bamako.
Tout ceci est très bon. Ce qui importe en définitive, c'est la modération, c'est le contrôle, c'est la surveillance des parents pour toutes les formes d'occupation pendant ces temps libres. Mais il faudrait éviter que ce temps libre-là soit un temps aussi de prolongement scolaire où les enfants ne font qu'apprendre, apprendre, apprendre. N'étant pas des professionnels de l'éducation, certains parents abusent du temps libre des enfants. Ils détournent ce temps libre selon plusieurs options.
Si occuper les enfants avec des tâches les week-ends est une bonne chose, il est aussi nécessaire qu'ils aient des moments d'intimité avec leurs parents, conseille le sociologue Fouji Tanjugura. Il estime que cela contribue à l'épanouissement des enfants.
Les week-ends sont les seuls moments où les parents peuvent être avec les enfants toute une journée. Et donc, c'est des moments qu'il faut consacrer à l'intimité avec les enfants, à leur questionner sur leurs amis, leurs entourages et à faire des sorties, faire des activités qui plaisent aux enfants. Cela les fait épanouir davantage parce que le temps que les parents passent avec les enfants reste tracé dans leur mémoire et les enfants grandissent avec. C'est pourquoi les enfants qui ont les deux parents et qui partagent des moments d'intimité avec les parents sont les enfants qui sont les plus épanouis.
Les spécialistes de l'éducation insistent sur le fait de ne pas surcharger un enfant avec des cours à domicile. Cela contribue selon eux à sacrifier son enfance pour une hypothétique réussite scolaire.